Bonjour, François de Beaulieu. Vous allez bien?
Bonjour, toujours.
Bienvenue à votre service. Vous êtes là, comme à chaque semaine, pour nous dire qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde. Et aujourd'hui, on parle principalement d'environnement.
Absolument. Et effectivement, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voyager un petit peu et d'aller voir à travers le monde quelques très belles initiatives de villes, de pays aussi, des endroits donc où on a décidé d'aller de l'avant et puis de se donner les moyens effectivement de lutter activement contre le réchauffement de la planète. Alors, avant de nous envoler vers notre première destination qui sera le Bangladesh, et de là nous irons ensuite en Norvège avant de revenir en faisant un crochet par Berlin, je vous propose quand même de partager avec vous quelques chiffres. Et je vous rassure, je ne vais pas vous assommer avec les chiffres, mais on parle effectivement d'environnement, on parle de réchauffement climatique. Le sujet n'est pas à la mode, il n'est pas tendance, il est grave. Mais de quoi parle-t-on exactement? Eh bien écoutez, j'ai voulu partager avec vous ce matin quelques chiffres. Très peu, mais ils sont importants, ils sont marquants. Et ils nous disent clairement de quoi il s'agit. Le mois dernier, en mai 2016, une étude publiée par la NASA et l'Université Columbia de New York nous montrait que l'indicateur de température planétaire a dépassé de plus de 1 degré Celsius la moyenne observée entre 1950 et 1980. Alors, ça veut dire tout et rien à la fois, mais mettons ça en perspective avec quelque chose de très récent. En décembre dernier, à Paris, avait eu lieu cette grande messe environnementale que l'on a appelée la COP21. Eh bien, lors de la COP21, les 200 chefs d'État qui s'étaient réunis ont convenu de limiter évidemment le réchauffement climatique à l'échelle planétaire. Et leur objectif était de limiter cette hausse du réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius par rapport à la période pré-industrielle qu'on situe aux alentours de 1750. Alors, deux chiffres. On voulait limiter donc la hausse maximale à 1,5 degré Celsius. Or, en l'espace de 6 mois, on vient déjà de franchir 1,15 degré Celsius. Alors, cette précision donnée, et je l'ai recueillie dans un article du Monde récent du 16 juin, signé par Sylvestre Huet. Sans plus attendre, mettons le cap sur notre première destination et voyons donc ce qui se passe de beau au Bangladesh, où là-bas, une ville qui s'appelle Rajshahi a pris des mesures absolument étonnantes. Une ville qui, en 2014, faisait beaucoup parler d'elle parce qu'elle était sans doute l'une des villes au monde, pour ne pas dire la ville au monde, où l'air était le plus irrespirable. Eh bien, vous allez être étonnés. En 2014, l'air était irrespirable. En 2016, la pollution de l'air, là-bas, a chuté de 67%. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, c'est ce que nous allons voir, et nous allons y trouver quelques explications. Et avant même d'aller plus loin, une précision qui est importante. Cette ville, elle n'est pas petite. C'est, au nord du Bangladesh, la 4e ville en importance. Donc, en 2014, le constat était que c'était l'une des villes les plus polluées au monde. En 2016, et ce selon les chiffres de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, eh bien, elle occupe maintenant la première place du classement mondial des villes qui ont réduit la pollution de l'air. Alors, c'est un changement radical, exceptionnel même. Mais à nouveau, comment ont-ils fait? Eh bien, il y a 2 ans, imaginons. Là-bas, les fenêtres des habitations restaient fermées tout l'été. En raison du vent? Non, non. Est-ce que c'était pour éviter de faire rentrer les moustiques? Non plus. Eh bien, c'était simplement à cause du smog et de la poussière due à la pollution. L'air était devenu irrespirable. Aujourd'hui, on le sait, donc la situation a complètement changé. Eh bien, comment est-ce que cette ville a pu, en 2 ans, inverser la tendance? En 2 ans, certes, mais les efforts de la population, eux, avaient commencé il y a 15 ans. Qu'ont-ils fait? Eh bien, la population s'est mobilisée, parce que graduellement, les gens ne sont pas stupides, pas plus là-bas qu'ici, et ils ont parfaitement compris que leur qualité de vie, qui n'était pas forcément déjà très brillante, effectivement, se dégradait. Alors, ils se sont mobilisés, ils ont commencé à planter des arbres. Et j'aimerais simplement ouvrir une parenthèse. Lors de mes chroniques, depuis le début de l'année, j'ai évoqué ce sujet à plusieurs reprises à travers des initiatives individuelles en Inde, d'autres collectives qui ont émergé en Allemagne. Et on voyait effectivement, à travers ces initiatives, l'importance effectivement de repeupler la planète avec des arbres. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait là-bas. Ensuite, ils ont multiplié les initiatives. Les transports publics, par exemple. Eh bien, les transports publics sont désormais équipés de batteries électriques. Les améliorations ont été apportées aux cheminées des habitations. L'utilisation du charbon, l'évacuation des eaux usées, tout ça a été travaillé, repensé. Et puis, un autre changement plus surprenant encore. Ils ont construit de nouvelles chaussées. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, cela a permis de réduire le niveau des poussières. Et ça a évidemment encouragé les habitants à se promener sans utiliser leur véhicule. Alors, les efforts vont bien sûr s'intensifier, notamment avec la création de pistes cyclables. Et l'ensemble de ces actions en faveur de l'environnement a permis à la ville de Rajshahi d'inverser complètement donc la tendance. Si on se réfère à ce que l'on appelle les PM10, qui sont ces particules très fines en suspension que l'on respire, et qui sont évidemment plus importantes encore parce qu'elles pénètrent dans l'appareil respiratoire profondément, eh bien imaginez que en l'espace de 2 ans, donc, elles étaient en 2014 de 63,9, pardonnez-moi, de 195 microgrammes, et elles sont tombées à 63,9 en 2016, d'où effectivement une différence de 67,2%. Et pour vous donner une comparaison, puisque cet article émane d'un quotidien français, en France, le seuil d'alerte est de 80 microgrammes par mètre cube. Alors imaginez la différence en 2 ans que ça peut faire dans la vie des gens. Et bien sûr, évidemment, les habitants de Rajshahi se sentent mieux, ils sont dans un élan positif, cela se voit tous les jours. Maintenant, la ville est enfin propre et ils travaillent, croyez-moi, encore plus pour qu'elle le reste. Nous mettons le cap maintenant sur la Norvège. La Norvège, un pays qui n'en finit pas de nous étonner, comme d'autres du reste. Mais c'est un pays qui est effectivement prompt à prendre des initiatives. On en a déjà parlé dans l'une de mes chroniques avec le fonds de pension, le fonds souverain de la Norvège, qui avait décidé il y a quelque temps donc de se désinvestir des entreprises qui n'étaient pas green, donc des entreprises qui touchaient au charbon, au gaz et au pétrole. Et cela en dépit évidemment des pertes de profits que cela représentait pour eux. Et on parlait à l'époque de centaines de millions de profits perdus chaque année. Eh bien, la Norvège est à nouveau à l'honneur aujourd'hui. Et je vous propose de nous y rendre effectivement. Pourquoi ? Parce que là-bas, une décision vient d'être prise ce mois-ci. Et cette décision, elle vise quoi ? Eh bien, la Norvège vise maintenant la neutralité carbone avec 20 ans d'avance. Souvenons-nous, la COP21 à Paris en décembre dernier, c'est un ensemble de mesures qui ont rassemblé donc les pays pour justement lutter contre le réchauffement climatique. Et bien là-bas, la Norvège, au lieu de viser cette neutralité carbone pour 2050, c'est maintenant un objectif fixé pour 2030. Et l'objectif fixé a de très fortes chances d'être atteint. Alors comment vont-ils s'y prendre, eux, à leur tour ? Eh bien, c'est ce que je vous propose d'aller voir dès maintenant avec un autre article que j'ai recueilli sur ce site qui s'appelle positive.fr, signé Denis Gentil, daté du 16 juin 2016. Comme je viens de vous le dire, donc, les députés norvégiens ont récemment adopté, ce mois-ci, une résolution visant à atteindre la neutralité carbone dès 2030. L'objectif, c'est effectivement de réduire à zéro le volume net d'émissions de gaz à effet de serre qui sont effectivement responsables du réchauffement climatique. Alors pour bien comprendre, nous devons d'abord nous poser une question. Qu'est-ce que c'est que cette neutralité carbone ? Eh bien, la neutralité carbone consiste bien sûr à réduire au maximum ses propres émissions de CO2. Et sur ce point, les marges de manœuvre de la Norvège ne sont pas énormes. Pourquoi ? Eh bien parce que la quasi-totalité de la production électrique du pays est déjà d'origine hydraulique. Mais il y a un deuxième aspect essentiel dans ce concept. Cette démarche repose sur le fait que l'effet de serre est un phénomène global, planétaire, et qu'une quantité de carbone émise en un endroit peut être compensée par la réduction d'une même quantité dans un autre lieu de la planète. Alors la Norvège doit donc investir dans des projets de compensation carbone dans d'autres pays, permettant ainsi donc la réduction vérifiée d'émissions de gaz à effet de serre à travers le développement d'énergies renouvelables, la lutte contre la déforestation, à nouveau. Et pour atteindre cet objectif, le gouvernement norvégien sera certainement contraint de recourir donc à l'achat de crédits compensatoires à l'étranger, en aidant financièrement les pays qui en ont besoin. Mais ils devront aussi trouver d'autres solutions qui ont une vraie incidence sur l'environnement. Ils ont un objectif clair et ils vont désormais s'attacher à trouver les moyens pour le réaliser. Rappelons que la Norvège est le premier pays producteur de pétrole en Europe. Et en 2015, les émissions de gaz à effet de serre de ce pays ont augmenté de 1,5% par rapport à 2014. Pourquoi ? Eh bien, simplement en raison de l'exploitation d'un nouveau gisement pétrolier. Alors pourront-ils continuer cette politique ? Ce n'est peut-être pas un pari gagné d'avance, mais rien ne semble arrêter la volonté de la Norvège d'agir en faveur de la planète et de permettre à ses habitants de respirer un air pur. Décidément, la Norvège veut montrer l'exemple aux autres pays et les annonces se succèdent. L'interdiction des véhicules à essence et à diesel dès 2025, puis la prise de mesures strictes et phares pour la préservation des forêts. Alors, quelle sera la prochaine mesure de la Norvège sur l'environnement ? Nous y reviendrons bientôt. Après la Norvège, un petit crochet à Berlin, parce que là aussi il se passe des choses importantes, des choses extraordinaires. Berlin, comme beaucoup de grandes villes avancées du monde, s'est doté d'un fonds de pension. Un petit peu à l'image du fonds souverain que j'évoquais pour la Norvège, eh bien le fonds de pension de la ville de Berlin, après deux années de pression des citoyens de la ville, des associations environnementalistes, le fonds de pension donc de la ville de Berlin vient de décider très récemment de se désinvestir lui aussi des entreprises dans lesquelles il avait investi et qui sont reliées à l'exploration, l'exploitation de charbon, de gaz et de pétrole. Alors c'est aussi une avancée importante et ce n'est pas la première en Europe parce que Berlin rejoint simplement d'autres capitales comme Stockholm, Paris, Copenhague et Oslo qui, eux, ont déjà fait ce geste. Avant de vous rendre la parole, je vous propose une toute petite dernière annonce. Dans mes chroniques, j'ai parlé à plusieurs reprises et je l'ai même annoncé lorsqu'il est sorti sur les écrans ici au Québec, ce merveilleux documentaire, un film qui s'appelle Demain. Eh bien, demain, à Bruxelles, la ministre de l'Environnement, Céline Fréaud, vient de le distribuer sous forme de DVD dans les écoles qui n'ont pas pu participer aux présentations publiques. Pourquoi ? Parce que pour eux, c'est un film qui est porteur d'espoir, mais porteur de leçons pratiques qui peuvent être mises effectivement dans la réalité quotidienne. Alors, plus tôt on le fait avec les jeunes, mieux ça vaut. Merci à nouveau.
Merci beaucoup, François de Beaulieu. Restez à l'écoute parce que tout de suite après, c'est la toute première capsule En route vers Rio, un sport, un jour.